Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
Du Trisac.
L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en vaut l'effort.
Carmen Gill est avec nous. Elle est professeure en sociologie à l'Université du Nouveau-Brunswick et membre de l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation. Madame Gill, bonjour.
Bonjour.
C'est bien Gill, hein? C'est pas Gill.
Oui, c'est Gill.
C'est Gill. Bon, j'ai pris une chance. J'avais une chance sur deux, puis j'ai gagné. Je vais aller me chercher un 649. Exactement. Bon, parfait. Vous avez merci d'être là, Mme Gill. Vous avez coécrit un rapport qui met en garde contre la cyberviolence conjugale. Expliquez-nous en quoi ça consiste.
Alors, le rapport visait justement à faire la démonstration que l'on pourrait criminaliser le contrôle coercitif dans des situations de violence en partenaire intime. Et quand on parle de l'utilisation de la technologie, ben c'est un moyen très intéressant pour pouvoir contrôler sa partenaire. Donc, il faut revenir plutôt sur ce qu'est le contrôle coercitif et en quoi ça consiste. Donc, différentes tactiques qui sont soit physiques ou non physiques, qui sont la plupart du temps utilisées par les hommes contre les femmes dans le cadre de leur relation conjugale. Et donc, ça prend un caractère multidimensionnel. Donc, on va voir que la personne va être contrôlée dans ses faits et gestes. Il va y avoir une micro-régulation de ses activités quotidiennes. Et la technologie va finir par faire partie de... Ça va être un moyen intéressant pour quelqu'un qui essaie de contrôler sa partenaire. Parce que, par exemple, si on utilise les téléphones cellulaires, si on utilise les fonctions de GPS, on peut facilement suivre et surveiller ce que sa conjointe ou sa partenaire fait.
Ouais, parce que là, parce qu'on a beaucoup parlé de violence conjugale, on a beaucoup parlé de féminicide parce qu'il y en a eu, mais là on ajoute à ça la technologie, puis vous dites c'est un phénomène sous-estimé là. Vous parlez de trois types de cyberviolence, la surveillance et le contrôle, le harcèlement et la cyberviolence sexuelle, mais tout ça à travers les téléphones et les tablettes.
Ça, c'est pas c'est pas moi qui ai écrit ce rapport-là, je pense. C'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit.
Ouais, ouais.
Moi, ce que je dis, c'est que la technologie est utilisée comme moyen pour contrôler et avoir du pouvoir sur sa partenaire. Et là, on peut donner toutes sortes d'exemples comme suivre les faits et gestes. On peut aussi prendre en compte ce que la personne fait avec son téléphone cellulaire. Donc, il n'y a plus de secret. C'est comme si ta vie est complètement exposée.
Ouais.
Et on sait que, avec, par exemple, nos tablettes ou notre téléphone cellulaire, on en fait beaucoup de choses avec ces petits objets-là. Et donc, si la personne qui est dans notre relation, avec qui on est en relation, nous contrôle, va facilement pouvoir avoir accès à tout ce qu'on a fait durant une journée, va pouvoir déterminer si on aurait dû arriver plus tôt que prévu. On peut plus nécessairement dire que j'ai fait un détour quelque part sans que la personne le sache.
Mais ça, c'est tout le monde qui est surveillé, Mme Gill. C'est la nouvelle réalité, les hommes, les femmes. Mais si on ajoute à ça le facteur de violence conjugale, là, ça devient encore plus déterminant, là, ça devient encore plus contrôlant. Mais tout le monde... le GPS, les médias sociaux, des, tu sais, le piratage des comptes courriels. Je veux dire, ça se fait.
Oui, là, je vous arrête tout de suite ici parce que d'un côté, la technologie, ça a des effets très positifs et on en a besoin. Par exemple, même les victimes de violences vont pouvoir utiliser la géolocalisation, par exemple, pour se protéger. Mm-hmm. Mais il y a toujours un effet pervers à la technologie et j'en suis très consciente. On est tous contrôlés, on a...
C'est épouvantable.
Les multinationales ont accès à ce qu'on achète, par exemple.
Ouais.
Mais il y a un effet pervers avec la technologie. Moi, par exemple, je fais de la course à pied. J'aime bien courir avec mon téléphone cellulaire. De cette façon-là, mon conjoint sait à quel endroit je me trouve.
Mm-hmm.
Est-ce que je suis tombée? Donc, ça, c'est positif. Mais si je suis avec un conjoint qui me force à trimballer mon téléphone cellulaire pour qu'il puisse mieux me contrôler pendant que je suis à l'extérieur de mon domicile, là, ça devient problématique.
Mmh.
Donc, vous voyez que ça peut être très positif, mais en même temps, il y a des côtés très négatifs à la technologie qui se retourne contre les victimes de violence.
Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Là? Comment on doit réagir? Parce que si tu désinstalles ou si tu alertes, si tu enlèves le GPS, la géolocalisation, ça va être source de conflit parce que si tu es avec un homme contrôlant, lui, il va le savoir, puis là, ça va créer des problèmes. Alors, comment on réagit? Comment les femmes doivent réagir?
Ils doivent documenter ce qui se fait avec leur technologie. Mais de toute façon, ça va se retrouver dans ce qu'on appelle, désolé pour le terme en anglais, mais le cloud.
Ouais.
Donc, tout n'est pas perdu. Rien n'est perdu quand on commence à regarder ce qui se fait au niveau des technologies. Et ça peut être facilement documenté lorsqu'on veut faire une plainte, par exemple. Les policiers peuvent finalement avoir accès à ce genre d'informations-là.
Donc, c'est d'utiliser cette situation-là puis essayer d'en profiter, là, d'en tirer profit pour essayer de sortir d'une relation de violence conjugale, là, dans le sens d'avoir des preuves qu'il y a tentative de contrôle, d'harcèlement, puis même de menaces.
Ah, tout à fait. Mais en même temps, quand on regarde ce que l'on va conserver sur nos téléphones cellulaires, ça peut aussi se retourner contre nous. Alors, je pense par exemple aux photos qu'on peut compiler sur nos téléphones cellulaires, et là, ça peut devenir une façon de terroriser sa partenaire parce que l'autre va avoir accès à ces photos-là, va pouvoir les diffuser. J'ai vu des situations où un conjoint qui essayait de contrôler sa partenaire a décidé d'entrer dans sa liste d'adresses courriel et envoyer un courriel assez méchant à l'ensemble des personnes avec lesquelles elle travaillait, simplement pour montrer à quel point elle était une mauvaise mère, une mauvaise personne dans sa relation. Et ça, tout de suite, les gens autour d'elle ont vu que son conjoint essayait de manipuler.
Mm-hmm.
Et il a vraiment réussi à entrer dans son adresse courriel. L'autre aspect, c'est que c'est facile de donner son mot de passe à son conjoint ou à une personne qu'on fréquente parce qu'on a des difficultés, on veut faire régler un problème technologique. Mais ce genre de situation-là fait en sorte que la personne qui est en contrôle des mots de passe va avoir accès à toute notre vie personnelle. Donc,
c'est pas simple, hein. Puis là, si elle veut pas le donner, lui, il va faire une crise ou il va menacer.
Oui.
Fait que là, on s'en sort pas. Je lisais, Angel, l'Institut national de santé publique du Québec disait que jusqu'à 78% des victimes de violences conjugales auraient subi une forme de cyberviolence. Là. Ça vient avec, là, finalement.
Oui. Je suis pas étonnée d'entendre ça. Parce que il faut comprendre que le harcèlement criminel, on est loin de la surveillance ou de suivre quelqu'un dans la rue ou d'aller là où la personne se trouve. Maintenant, c'est triste à dire, mais un conjoint qui contrôle sa partenaire a plus besoin de se déplacer. Il peut rester dans le confort de son appartement, de sa maison, et savoir exactement où sa partenaire sera, parce qu'il va la forcer à soit avoir, je dirais, on peut même avoir les Apple Tags, comme on dit, là, qui peut très bien être mis dans un sac à main, et donc il va suivre le sac à main, il va savoir exactement où elle est.
Qu'est-ce que vous faites allez-y, continuez, je vais vous poser la question après.
Oui, oui. Par contre, il y a Apple qui a quand même eu la brillance d'esprit d'ajouter un élément lorsqu'il y a, par exemple, un tag. Je suis désolée d'utiliser les termes anglais. Mais par exemple, si mon conjoint décidait de mettre un tag Apple dans mon sac à main, je recevrais un message qui me dit que quelqu'un a mis un tag dans mon sac à main. Donc, je saurais que je suis suivie.
Qu'est-ce qu'on fait en conclusion?
C'est
là,
quand même une chose intéressante.
Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là pour prévenir? Tu sais, on le sait, là, souvent, dans les relations, les adolescents, les adolescentes, il y a souvent de la manipulation, du chantage, des menaces. Qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là pour que ça soit utile?
Ben, tout d'abord, il faut reconnaître qu'on est dans une situation de contrôle. Et ça, c'est ce que j'expliquais dans l'article à la journaliste. C'est pas facile de nommer une situation où on est contrôlé, où on va l'appeler violence conjugale. Parce que il faut quand même... Ce type de relation-là où il y a du contrôle, ça s'apparaît pas du jour au lendemain. C'est une succession d'événements qui vont s'accumuler. Et là, la personne qui est contrôlée va finir par se rendre compte qu'il se passe quelque chose qui c'est pas normal. Mais est-ce que la victime va être en mesure de mettre le doigt sur la terminologie en disant « Ah, je suis une victime du contrôle de mon conjoint? » Pas nécessairement, parce que de la façon que c'est présenté au départ dans des relations, j'ai souvent vu des conjoints qui justement faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour rendre la vie de leur partenaire la plus agréable, et ils se souciaient beaucoup de leur partenaire. Alors, j'ai vu des femmes qui ont abandonné avoir un permis de conduire parce que leur conjoint leur disait que ça leur faisait tellement plaisir de pouvoir les conduire là où elles devaient aller. Il n'y avait plus besoin d'avoir deux voitures. Donc, ce genre de situation-là, ça s'installe, non pas du jour au lendemain, mais avec le temps. Et ça, ça finit par être très insidieux parce que tu vois à quel point tu es prise au piège, mais tu peux pas vraiment dire « Ah, je suis une victime parce qu'il m'a fait telle chose. » Mais c'est une succession de situations qui vont mener une personne à être dans une situation où elle est contrôlée. Et à partir du moment où on est pris au piège dans ce genre de situation, c'est vraiment difficile de reconnaître que ce qui se passe, c'est de la violence conjugale. Ouais. Parce que quand on parle de violence conjugale, de quoi parle-t-on? Le plus souvent, on va parler d'une violence qui laisse des preuves. Donc, on a beaucoup travaillé sur le fait que la violence conjugale, c'est de la violence physique. On parle aussi de violence psychologique, mais quand on veut vraiment reconnaître la violence conjugale, là, s'il y a de la violence physique, c'est sûr qu'il y a de la violence.
Bon, ben, on ajoute à ça la cyberviolence conjugale. Là, c'est y a matière à réflexion, en tout cas, sur la question. Absolument. Carmen Gill, merci à vous. Merci de nous avoir parlé.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.